Alors, je vais réutiliser mes petits journaux, mais ce sera pour la dernière question. Plusieurs questions sur la consommation. Emprunt, endettement, surendettement. Alors, c'est clair qu'un des moyens d'accélérer la consommation, c'est de faciliter le crédit. Vous pouvez avoir plusieurs crédits et des accumulations de crédits qui amènent tout naturellement au surendettement. Alors, c'est là qu'il faut gérer aussi ces possibilités de façon raisonnable et savoir résister aux tentations, même si la tentation est assortie d'une offre de crédit. Achetez maintenant, vous paierez en 2010. On le voit assez souvent, mais 2010, c'est bientôt. Et si vous faites ça plusieurs fois, en 2010, vous aurez un problème. Mais ce ne sera pas une surprise vraiment. Devant la situation de crise économique et financière grandissante, comment le chrétien peut-il agir par rapport à la pauvreté grandissante, chômage, autres circonstances, qui amène à une consommation réduite. Alors, oui, le problème du chômage, je n'ai pas vraiment connu, puisqu'en fait, je n'ai jamais travaillé, enfin, c'est en tout cas l'opinion de mes enfants. Donc, je n'ai jamais perdu mon emploi. Mais c'est sûr qu'on rencontre des gens qui sont dans des situations difficiles. Situation de chômage, je dirais d'abord beaucoup de délicatesse. On peut faire beaucoup de mal. Et la première chose à faire envers quelqu'un dans cette situation, c'est de ne pas les blesser davantage. Quelqu'un qui est au chômage, c'est probablement quelqu'un qui est en détresse. Il a l'impression d'être éjecté par le système, de ne plus être bon à rien ou de ne rien représenter. Donc il faut éviter des remarques du genre bah, écoute, si tu cherchais bien, si c'était un peu moins difficile, si tu te levais un peu plus tôt le matin pour aller chercher, tu finirais par trouver. Donc la première chose à faire, c'est d'éviter ce genre de remarques blessantes. Éviter même de demander affectueusement chaque dimanche à la sortie de la réunion, alors ça va, t'as trouvé quelque chose, mais tu sais, il y a encore une adresse ici, une adresse là. L'amour n'empêche pas un peu de soin dans notre communication avec des gens qui souffrent. Par contre, montrer de l'affection, montrer qu'on est là, disponible, prêt à écouter, qu'on est prêt à donner un coup de main, qu'on est prêt à valoriser la personne d'une façon ou d'une autre, en lui proposant une activité même bénévole, peut-être dans l'assemblée ou autre, ça peut aider cette personne à surmonter cette crise. Vis-à-vis des problèmes de pauvreté, on a beaucoup connu ça en Afrique, pauvreté partout. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas aider tout le monde. Alors la première chose que je dirais, ben, c'est Galates 6, verset 10, faisons du bien à tous. Mais surtout à ceux de la maison de la foi. Alors c'est déjà une priorité, c'est déjà un ordre, mais le prochain, ce n'est pas forcément uniquement celui qui est avec nous dans l'Église, dans l'Assemblée. Alors, sensibilité, écoute, disponibilité, la générosité dont parle Paul quand il est dans Corinthiens 8, quelque chose comme ça en tout cas, il faut être disponible. Maintenant, je n'ai pas de recette pour dire jusqu'à quel point on peut aider. Des fois, on hésite aussi à s'engager personnellement, et une des formules qui peut être utile, c'est de s'engager dans une association caritative, chrétienne si possible, mais après tout, pas nécessairement, je dirais. Je connais des gens qui sont dans des associations d'aide aux SDF, non chrétiennes, mais on apporte déjà une aide, on établit un contact qui peut être valorisé ensuite. Mais sinon, il y a l'armée du salut, et je suis sûr que même si vous présenter un projet dans votre assemblée, ça peut intéresser, mobiliser d'autres personnes. Un autre passage qui nous inspire, c'est le bon samaritain. Alors nous, on est plutôt du genre sacrificateur, lévite, parce qu'on a des choses importantes à faire. On veut rester saint, on veut rester. Il y a une conférence à Guival, il faut y aller, on n'a pas le temps. On est pressé, on a de bonnes raisons, mais finalement, des fois avec peu de choses, on peut beaucoup aider. Notre société ne devrait-elle pas s'inquiéter du fait que sa préoccupation n'est plus de satisfaire ses besoins, mais de créer de plus en plus de besoins? Alors, j'ai eu un grand changement dans ma psychologie tout à l'heure, et je suis maintenant très abattu, très triste. J'étais tout fier de dire à Maurice Poing que j'avais acheté un Mac. Je lui ai dit, ouais, c'est la nouvelle naissance, je suis passé du PC à Mac. Il me dit, non, tu sais pas qu'il y en a de nouveaux qui vont sortir dans une semaine ou deux? Alors, j'étais très content. Et puis maintenant, voilà, je suis triste parce que je sais qu'à 2 semaines près, j'ai raté quelque chose. Donc, nouveaux besoins. Et Je croyais avoir satisfait mon besoin précédent, et je pense qu'il s'était plus que satisfait, mais je n'ai pas le dernier truc qui me permettra d'être à la pointe et en avance et de faire encore plus de choses pour le Seigneur. Alors c'est vrai que la pub, le marketing, c'est créer des besoins. Il faut en être conscient. Il faut réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce nouveau truc, de cette nouvelle version, de cette nouvelle mode, de cette nouvelle ligne, etc., etc. Dernière question, comment un fournisseur de produits spirituels, oulala, enfin je lis quand même, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'y suis pour rien. Comment un fournisseur de produits spirituels peut-il se rendre compte de l'adaptabilité de son produit au client? Alors, il faut utiliser le marketing, excusez-moi, mais ça commence par une étude de marché avant. Alors, il faut savoir à qui on s'adresse, à quel public, quel est son mode de communication. Un de mes défis quand j'étais missionnaire, c'était d'être dans une équipe multinationale, 9 personnes, 6 nationalités. Une personne indienne, puis après des Européens, et un Allemand. Hollandais, français. Le français, c'était juste le juste milieu, l'équilibre, enfin bref, j'insiste pas. Mais tout le monde ne pouvait pas s'adapter à la norme commune. NF, vous savez ce que ça veut dire, hein, norme française. Alors, pendant longtemps, j'espérais que tout le monde allait s'adapter. Et puis les pauvres, malheureux, mais enfin on ne peut pas leur reprocher, ils n'étaient pas nés dedans. Alors mon problème, c'était de communiquer avec chacun un peu dans sa culture, un peu avec sa façon d'affirmer quelque chose. Alors avec l'Indien ou l'Indienne, il fallait y aller tout doucement. Parce qu'une personne très sensible, très délicate, qui comprenait ce que vous aviez dit avant que vous l'ayez dit. À l'autre côté, il y avait l'autre. Bon, je ne vais pas dire qu'il est allemand parce que... Mais là, il fallait que ça soit carré, brutal. Et je n'arrivais pas à communiquer avec lui jusqu'au jour, pour des raisons quelconques, j'ai explosé de colère. Ça m'arrive jamais, sauf une fois. Et qu'est-ce qu'il était content? J'avais enfin exprimé quelque chose de compréhensible. Alors, quand on s'adresse à un public, à des clients, il faut parler le langage du client. Connaître ses besoins, connaître son langage, connaître ses références, pour pouvoir s'y adapter. Ça, c'est le travail en amont. Alors, voilà, j'en arrive à mes petits trucs de journaux. Ne regardez pas les couvertures parce que c'est un peu limite. Mais je vous lis juste quand même la table des matières. Si je lisais un article, ça serait franchement pas bien. Alors, rubrique love, beauté, sexo, psycho. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, Love, quel prince mérites-tu? Quand ça sent la fin, 10 trucs pour l'avoir arrivé. Quel est ton idéal masculin? As-tu une chance avec lui? Etc. Beauté, c'est grave, docteur. Ça veut dire s'ils exagèrent et qu'il y a des problèmes, est-ce que c'est grave? Sexo. Bon, je lis. Comment lui donner envie de toi? Sais-tu susciter l'envie chez les mecs? Bon, je saute, je saute. Quel est ton atout séduction? Bon, je saute parce que ça devient grave. Alors, si vous parlez aux jeunes, il faut être capable de répondre à ce genre de questions et de préoccupations. Si vous répondez à ces questions, vous répondez aux besoins des jeunes. Si vous restez dans les grands principes bibliques, ça restera des grands principes bibliques, mais ils verront mal comment adapter ça à leur situation du moment. Il y a d'autres moyens aussi. Moi, j'aime bien les rencontres interactives. Encore une petite expérience. La semaine dernière, j'étais dans une formation dans un cadre chrétien, 5 jours. Et puis, c'était 4 séances, mais pas de 45 minutes, de 1h30. C'était fait de telle façon que même le cinquième jour, la dernière rencontre, on était encore surpris et frustrés que c'était fini. Parce qu'il y avait beaucoup d'interactivité. On recevait la base avant, on étudiait. Et puis dans 1h30, il y avait à peu près une dizaine, une quinzaine de séquences, un peu d'exposé magistral, discussion par petite table de 4 ou 5, petit questionnaire personnel, discussion à deux, partage des réponses, encore 5 minutes d'exposé. Et à la fin, eh bien, tout le monde était là, présent, intéressé, dedans. Et puis ça permet aussi aux participants d'exprimer leur vision du problème, de partager un peu les solutions qu'ils ont expérimentées, qui ont marché, qui ont raté. Et comme ça, le contenu se forme dans le groupe. Ce n'est pas quelque chose qui est balancé depuis la tribune, c'est quelque chose qui émerge dans la discussion. Donc là, on répond aux besoins. Enfin, c'est le groupe qui répond lui-même à ses attentes. Je vous conseille aussi la méthode du dialogue personnel. Donc tout à l'heure, même avant d'avoir la question, j'avais interpellé une jeune, Caroline quelque chose, et puis je lui ai dit, alors comment t'as trouvé ? Alors je ne cherchais pas de compliments, c'est pas ça qui m'intéresse d'ailleurs, c'est pas très utile. Un peu d'appréciation positive, quand on sent que c'est équilibré, c'est un retour utile. Donc poser la question, et je dirais aussi encourager les questions. Alors peut-être que quand on est d'un certain âge ou plus âgé que l'orateur, ça devient difficile avec moi. Là, on ose poser des questions. Si on est plus jeune, ou on a encore peur des vieux, là. Alors, est-ce que c'est impertinent? Est-ce que c'est complètement décalé? Moi, je vois déjà avec mes enfants, j'ai des retours constructifs. Mais c'est très utile. Et j'encourage ça dans la mesure du possible. Alors, il faut s'accrocher des fois. Mais il n'y a pas de miséricorde particulière pour le père. Il n'y a pas non plus, en tout cas chez nous, d'agressivité particulière. Mais ils me disent les choses comme ils les ont vécues et c'est très utile. Si en plus, enfin normalement quand vous avez des enfants, vous avez aussi une épouse. Alors là, ça peut vous faire un retour consistant, précis, bienveillant, mais très constructif. Si en plus elle est hollandaise, alors là. Alors il y a des questions plus personnelles. Quel chemin de Dieu quand on a perdu son emploi? Alors honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question. D'une façon générale, ben, se confier en Dieu. Mais ça me rappelle quand j'expliquais en Afrique qu'il fallait se confier en Dieu. Ouais. Et puis toi, tu as l'assurance rapatriement si tu es malade, tu as l'argent, etc. C'était pas du tout la même chose. Donc je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui a perdu son emploi. Donc honnêtement, j'ai de la compassion, mais je n'ai pas de conseils à donner. Et quand on n'a pas de conseils, il vaut mieux pas essayer. Bon, j'ai fait le tour à peu près.
Du temps, c'est limité à trois questions, donc du coup, ce sera très bien. Je vais pouvoir maîtriser mon temps de parole. Et la première question, c'était le temps pour Dieu fait-il partie de la dîme? Il y a quelques... ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans, on était au comité de rédaction de promesses, et puis le sujet de la dîme est venu. Ouh là 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 là! Ça fait partie de ces sujets qui, tout de suite, suscitent une réaction. Alors la dîme, on l'applique d'abord sur l'aspect financier. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais la dîme, comme elle était conçue dans l'Ancien Testament, semble-t-il, se rapproche davantage de nos impôts que vraiment de ce qu'on donne pour Dieu. Mais le principe, me semble-t-il, doit être là, c'est la dîme, c'était qu'on faisait passer Dieu en premier. On donnait les premiers fruits, on donnait d'abord à Dieu. Et il me semble que ça va un petit peu dans la ligne des priorités que j'avais mises ce matin, où le socle de notre vie, c'est Dieu passe en premier. Ce qui est toujours un peu gênant dans cette idée, dans cette histoire de dîme, c'est que ça a quand même un petit parfum un peu légal, et qui dit légal, un peu légaliste facilement, où la dîme, c'est il faut absolument que j'ai ma demi-heure avec Dieu, sinon le bon Dieu, il va me punir. Il va m'arriver plein de catastrophes aujourd'hui si je n'ai pas passé ce temps-là avec lui. Alors, il peut y avoir des temps plus ou moins importants, suivant les jours. Je pense qu'il faut garder ce principe, Dieu en premier, et puis après, de faire varier en fonction des besoins, en fonction des circonstances, etc. La veuve qui avait 2 pites, si on fait la transposition du côté argent, puisque temps et argent, le temps c'est l'argent, on dit aujourd'hui, hein, il y a quand même beaucoup de rapprochements qu'on peut faire. La veuve qui avait donné les 2 pites, eh bien en quantité elle avait donné peu, mais en proportion elle avait donné énormément. De sorte que, essayons d'avoir une approche, moi je me rappelle, quand j'étais petit j'allais chez mes grands-parents, eh bien ils avaient le matin, Après le petit déjeuner, on prenait son temps et puis on pouvait avoir un bon moment de lecture. C'est quelqu'un qui est très actif, il ne pourra pas prendre le même temps, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, Dieu sera moins présent dans la vie. La deuxième question, c'est: le présent pour un chrétien ne doit-il pas être vu et pensé à travers le futur? Quelles conséquences? J'ai insisté sur le fait qu'à mon avis, le chrétien, il vit dans le présent à la lumière du futur, donc à la lumière du retour du Seigneur, à la lumière de ce qui se passera à ce moment-là, la lumière des récompenses. On pourrait citer des textes des épîtres de Paul où il parle de ce jour-là qu'il attend et en vue duquel il vit aussi. Donc certainement le chrétien doit être prévoyant et avoir aussi le futur en vue, donc dans un sens absolu de ce retour du Seigneur et de ce jour des récompenses, mais aussi dans un sens plus étroit, ne pas hésiter à faire des projets. Paul avait fait le projet d'aller à Jérusalem, puis à Rome, puis en Espagne. Bon, on peut penser qu'il a accompli son programme, pas exactement comme il avait pensé au départ, mais néanmoins, on peut faire des projets. Ce que Jacques critique dans le chapitre 4 de son épître, dans les versets 13 et suivants, 13 à 17, c'est que ces projets sont faits sans tenir compte du fait que Dieu est souverain au-dessus de nos projets. Donc le futur, oui, mais en laissant aussi dans notre cœur, quand on fait des projets, cette pensée de la souveraineté de Dieu. Je crois que c'est Luther, si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un de la Réforme, à qui on disait, mais si le retour de Jésus, la fin des temps est pour demain, qu'est-ce que tu ferais? Moi, j'irais planter un arbre, il avait répondu. Donc on voit bien, il y a cette idée de construire des choses comme si on était sur la terre pour longtemps, mais aussi avec la pensée que peut-être la réunion ne se terminera pas sans qu'on soit là-haut. Donc cette approche-là du futur. Mais de notre côté aussi, moi j'ai un petit peu de peine avec des gens qui se projettent toujours, oui, mais demain, c'est un petit peu d'ailleurs ma tendance, de toujours aller le coup d'après. Alors que Dieu nous demande d'abord de savourer et de vivre dans le moment présent. Et pas simplement toujours nous projeter dans le futur. La troisième question, c'est le chrétien pourrait s'interroger sur le fait que nos métiers sont de plus en plus intellectuels. Les métiers manuels laissaient beaucoup de liberté à notre esprit pour penser aux choses d'en haut. On pourrait multiplier les exemples de métiers intellectuels qui, sur 8 heures de travail, ne laissent que peu de temps pour penser à autre chose. Une heure devant 30 élèves, peut-on laisser notre esprit vaquer à la prière? Alors, jamais été 8 heures devant 30 élèves, mais ça m'arrive de faire des formations et d'animer des journées de formation. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Si on veut que la formation soit efficace et bien notée à la fin, il est quand même nécessaire d'être concentré là-dessus. Alors, ça participe au mouvement qui a été décrit ce matin. Lucien, tu nous parlais de ce mouvement d'urbanisation, de ces changements des conditions de vie. Les agriculteurs formaient plus de 50% de la population active au début du XXe siècle. Aujourd'hui, on doit être à 2,7. Et puis, je pense que même un agriculteur, il est quand même plus concentré aujourd'hui qu'il ne l'était quand il était derrière son cheval à tenir la charrue avec ses mains. Donc ça participe à cette entropie du monde qui augmente et cette circulation de plus en plus rapide des choses et dont nous avons à prendre conscience. Bon, donc je partage tout à fait ce constat-là. Est-ce que ça veut dire que d'un côté, on peut encourager des métiers plus manuels? C'est sans doute le cas. Je crois que la crise actuelle montre la limite de certains métiers intellectuels, dont entre autres le mien. Donc, je suis très clair là-dessus. Tout à l'heure, je parlais à un frère, le beau-fils fait un apprentissage en charcuterie. Il y a du travail en charcuterie. On parlait de chômage. Il dit qu'il y a beaucoup d'autres branches où il y a du chômage. Cela étant aussi, il ne faut pas non plus idéaliser le bon vieux temps où tout était parfait, etc. Il faut se souvenir qu'aussi l'agriculteur, il était aussi bien fatigué. Moi, je me souviens de frère Aubru qui avait sans doute travaillé à la ferme toute la matinée et qui, quand est arrivé les réunions d'études à 3 heures, eh bien, comme on disait, c'est ça ce qu'on dit, il pesait les fromages. Hein, c'est l'expression adéquate. Hein. Voilà. Ou on dirait aussi dans mon midi, ils avaient un petit péniqué. Donc, n'enjolivons pas envie aujourd'hui. C'est vrai avec des métiers qui sont très concentrés sur quelques heures de travail. qui n'empêche pas néanmoins la prière flèche à la Néhémie, même en quelques secondes, pour faire face à une situation peut-être difficile. Et puis, comme une boussole qui a été aimantée par ailleurs, eh bien, dès qu'on retire un petit peu l'aimant, on peut peut-être retrouver le temps d'un moment de deuxième qualité, et peut-être un peu plus fréquent que ce qu'on pourrait imaginer a priori.
Donc, il y a encore des questions, et beaucoup de questions, sur le troisième sujet. Donc, si vous êtes d'accord, je ne vous demande pas de voter, on va consacrer à peu près une demi-heure pour répondre à un certain nombre de questions, on ne pourra pas répondre à toutes.
Bon, il y a eu 11 questions, certaines d'une brûlante actualité. Je vais commencer peut-être. Je voudrais tout d'abord vous dire, je ne suis pas médecin. Je ne suis qu'humble professeur, donc je n'ai pas les réponses adéquates de la médecine directe. Je ne peux qu'essayer de vous donner quelques conseils spirituels, mais en me sentant tout petit devant un tel sujet qui, je le comprends bien, nous touche chacun. Question numéro 1. Peut-on penser que l'on a toujours une leçon à apprendre ou une étape à franchir à chaque maladie? Je crois que la réponse ne peut être que positive, mais ne nous attardons pas uniquement à la maladie. Je crois que les bons moments de la vie que Dieu nous permet, nous offre, nous donne, sont également autant d'étapes à franchir et des leçons à apprendre pour que nous vivions toujours plus près de lui. Non pas que nous désirions être malades, quel est l'être humain qui franchement aime être malade? Personne. Mais lorsque la maladie est là, lorsque la souffrance nous tenaille, je crois que notre position de chrétien, c'est d'essayer toujours de vivre à la gloire de Dieu, restant toujours tout près de lui, le plus proche de lui. Donc oui, il y a des étapes à franchir, oui, il y a des leçons à apprendre, mais quelles que soient les circonstances, heureuses comme malheureuses, le Seigneur, de toute façon, est toujours le même, et il est avec nous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Autre question. Un verset nous demande de traverser les souffrances, les épreuves, les afflictions dans la joie. Comment appliquer cela à la dépression qui est justement l'absence de joie? Question très difficile que celle-là. Parce que effectivement, nous avons toujours dans notre canevas cette image que le chrétien doit être un chrétien joyeux parce qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Mais néanmoins, voilà une affliction particulière que le monde moderne rencontre de plus en plus souvent, la dépression, le manque de joie, le manque de but, l'abandon de toute initiative, le repli sur soi, le manque d'ouverture vers l'autre, le dégoût de soi-même finalement. Mais dans ces situations si affligeantes, n'oublions jamais qu'en tant que créature du parfait Créateur, nous restons dans sa main. Si nous avons confié notre vie à celui qui est notre bon berger, dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, en relation avec le bon berger, à la fois le Père et à la fois le Fils, nous restons dans la main. Et personne ne peut nous retirer de cette main-là. Alors s'il y a des périodes dans notre vie qui peuvent durer des mois, des années, où il y a cette lourdeur du manque de joie et cette sensation d'une tristesse profonde, réalisons bien que nous ne sommes jamais hors communion du Tout-Puissant, qu'il nous tient dans sa main, et qu'un temps viendra et que des heures viendront où petit à petit, lui seul est capable de transformer notre tristesse en allégresse, notre peine en joie. Il faut continuer à lui faire confiance. Les disciples d'Emmaüs étaient tristes. Et que fait le Seigneur Jésus? Aucun reproche. première chose. Mais il prend la peine, en pleine nuit, de marcher pendant une douzaine de kilomètres avec eux. C'est un des versets les plus beaux de la parole. Il se mit à marcher avec eux. Eh bien, sachez que dans vos circonstances les plus affligeantes, les plus attristantes, là où vous ressentez que la joie n'y est plus, il y en a un, de toute façon, qui est là, à vos côtés, et qui, à la limite, vous prendrait même sur ses propres épaules pour continuer le chemin jusqu'au jour où il y aura une nette amélioration. Gardons confiance. De toute façon, on reste un enfant de Dieu jusqu'au bout du chemin. Autre question, Dieu peut-il envoyer la souffrance ? Je crois y avoir répondu, il est le souverain, il décide lui-même de la santé, de la maladie, de la vie, de la mort, selon son plan, selon son système de référence, que nous ne comprenons pas toujours. Il faut l'accepter. Pourquoi Job a-t-il tant souffert ? Pourquoi un autre a-t-il moins souffert ? Mais la souffrance est dans le plan de Dieu. Je vous ai proposé un verset de l'épître de Pierre, dans sa première épître, au chapitre 4, où il parle de ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Nous sommes devant un mur d'incompréhension parce que nos esprits sont limités. À la limite, si nous n'étions pas chrétiens, nous ne pourrions pas l'admettre, une telle déclaration. Et pourtant, elle est écrite, c'est la parole de Dieu, il faut nous y soumettre, il faut l'admettre. Oui, Dieu peut envoyer la souffrance, quelles qu'en soient les raisons. Ne raisonnons pas comme les amis de Job qui automatiquement voulait que les souffrances et la maladie de Job soient inévitablement une conséquence de son état de péché. Job, tu as commis quelque chose, tu as déshonoré Dieu, il n'est pas possible que tu sois dans un tel état si tu n'avais pas fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Ça n'était pas du tout le plan de Dieu. Méfions-nous des jugements hâtifs que nous pourrions proposer sur telle ou telle situation de souffrance, mais admettons que la souffrance, comme la santé, se trouve dans la main de notre Dieu. Question suivante, comment convient-il de prier pour les malades ? Seigneur, soit, Seigneur, nous te prions de guérir un tel, si tu le permets. Soit, Seigneur, nous te prions de faire ce qui est bon pour notre chair et de prendre soin de lui. Bon, c'est vrai qu'humainement parlant, lorsque l'on est au chevet d'un malade et lorsque l'on s'adresse à Dieu, on ne va pas lui demander de l'enfoncer davantage dans sa maladie. Si nous sommes là, c'est pour essayer d'apporter du réconfort, de la consolation. Et dans nos prières, bien évidemment, on va demander à Dieu qu'il y ait cette possibilité d'atténuer les souffrances, d'éviter les souffrances inutiles, voire d'améliorer l'état de santé. Et puisque tout est dans sa main et qu'il en est capable, d'apporter la guérison. Alors je crois que une des prières les plus fondamentales à laquelle nous faisons toujours bien de nous référer, c'est lorsque Jésus, en Gethsémané, connaissant toute chose, se soumet et a cette expression d'une grande dignité, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Pendant 11 mois, des milliers, des millions de prières sont montées au ciel pour présenter notre fille. Et on peut être assuré que tout allait dans un même sens, mais finalement, c'est la volonté de Dieu qui a été faite. C'était le plus difficile à admettre. Mais finalement, on le comprend après coup. C'est-à-dire, on comprend. On n'a pas la réponse. On accepte. On se soumet. Mais lorsque l'on prie pour quelqu'un, un être cher, un ami, c'est vrai que nous ferions toujours bien d'utiliser cette formule « s'il te plaît », si c'est selon ton désir, si c'est selon ta volonté, parce que finalement, que ta volonté soit faite. Question suivante, que doit-on penser du don d'organes ? Est-ce applicable pour le chrétien ? Alors, je suis mal placé pour répondre à cette question-là. Je crois qu'il n'y a pas d'indication nette et claire dans la parole de Dieu. je fais plutôt appel à votre conscience personnelle, à votre conscience privée. Toutefois, nous pouvons relever dans la parole de Dieu deux éléments. Je parlais tout à l'heure de l'écharde qui empêchait l'apôtre Paul d'être à 100% de ses capacités physiques. Il semblerait que cette écharde soit en rapport avec sa vue. Souvenez-vous, lorsqu'il se trouve sur le chemin de Damas, il est aveuglé et probablement qu'il avait gardé une infirmité. Et lorsqu'il écrit aux Galates, il dit aux Galates, « Mais je me rends compte que si vous en étiez capable, vous arracheriez vos propres yeux pour me les donner, les apporter. Serait-ce là un signe de don d'organes ? » Bien sûr que la technique chirurgicale à l'époque n'en était pas capable. N'oublions pas que le Seigneur Jésus, parlant de l'amour que nous avons à avoir les uns à l'égard des autres, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, prendra cet exemple, il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, c'est de donner sa vie pour un autre. C'est vrai qu'il peut y avoir des circonstances de vie, des accidents de circulation, où un être humain se trouve en mort clinique et où il est peut-être possible de récupérer, permettez-moi l'expression, un organe vital tel que le cœur pour continuer à transmettre la vie à un autre. Voilà quelques éléments de réponse. Je ne pousse ni dans un sens ni dans un autre. Je vous laisse seul juge d'apprécier la position que vous devriez prendre si tel était le cas qui vous serait soumis. Question suivante, que penser de l'imposition des mains ? C'est vrai que dans l'épître de Jacques, il est question de prier les uns pour les autres, d'appeler les anciens pour imposer les mains. Il est aussi question de l'onction d'huile. Alors je pense que tous ces phénomènes ont réellement existé d'une manière bénéfique pendant le premier siècle de notre ère, pendant ce qu'on appelle l'époque apostolique, où effectivement les disciples devenus apôtres avaient directement reçu ce don et avaient pu le transmettre. L'imposition des mains, l'onction de l'huile... N'oublions pas les vertus thérapeutiques de l'huile qui, placées sur l'endroit malade ou l'endroit douloureux, apportaient une certaine atténuation de la souffrance. Mais je pense que ce sont des signes extérieurs. Parce que l'apôtre Jacques, à la fin de son épître, lorsqu'il parle de ce phénomène, insiste bien sur le fait que c'est la prière de la foi qui guérira le malade. La prière de la foi. Et je pense que dans nos milieux évangéliques en général, et à la suite du mouvement réformateur du XVIe siècle, on a voulu éliminer tout ce qui était trop ostentatoire, et on a gardé l'essentiel, les protestants en général insistant sur le phénomène de la foi, et il me semble... qu'une foi sincère, pieuse, une prière exercée dans cette voie-là, avec une conviction profonde, est seule capable d'obtenir ce qui est présenté à Dieu, je reviens à la question précédente, si, bien évidemment, telle est la volonté de Dieu. Mon corps, ma santé, Paul dit à Timothée, use d'un peu de vin, que pensez-vous des remèdes ? Bon, Timothée avait des problèmes d'estomac et l'apôtre Paul lui propose de boire un peu de vin. Je reviens encore à ce que l'apôtre Paul écrivait en relation avec le vin à Tite, apprenant à vivre dans le présent siècle sobrement, justement, sobrement. La sobriété est la règle de vie de chacune de nos activités, de nos relations entre nous, de nos relations dans le monde et prioritairement de notre relation avec Dieu. Dans le cas précis de l'usage que nous faisons des boissons alcoolisées en général et du vin en particulier, bien, sachons être prudents, sachons être sobres. Si maintenant, pour quelqu'un, ça peut être une occasion de chute, pour le faire dériver vers un alcoolisme inquiétant, eh bien, la parole de Dieu nous vient encore en aide. Si ton œil, si ta main, si ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-le. Et spirituellement parlant, évidemment, ce n'est pas le moment d'appliquer la charia à la manière musulmane. Il ne faut pas se couper la main pour autant. Mais évitons de porter la main au verre de vin qui pourrait vous entraîner vers l'alcoolisme. Donc, soyons prudents. Maintenant, sous question, peut-être, c'est ce que je semble deviner, que pensez-vous des différents remèdes ? Il nous a été fortement conseillé, dans la préparation des différents sujets, et du mien en particulier, d'éviter tout sujet contradictoire tel que pensez-vous de l'homéopathie par rapport à l'allopathie, par rapport aux produits naturels, etc. Là encore, je vous laisse seul juge. Je vous renvoie à vos convictions personnelles en vous rappelant quand même une vérité qui était relevée par Joël tout à l'heure. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'il n'y ait jamais un remède qui arrive en contradiction avec la sainteté de Dieu. Lorsque vous avez votre conscience nette et claire, lorsque vous, en votre âme et conscience, vous avez la pensée que c'est dans cette voie-là que vous pouvez aller, vous recevrez de Dieu l'assentiment de toute façon et vous réaliserez que, quel que soit le remède utilisé, si c'est pour sa gloire, il vous y aidera. Question délicate. Peut-on abréger la douleur, entre parenthèses, euthanasie ? Question éthique d'une brûlante actualité. Je ne sais pas si on me l'a posée parce que je suis belge et parce qu'en Belgique, l'euthanasie est librement légalisée, malheureusement, alors qu'en France, elle est rigoureusement interdite. Alors, le grand principe, c'est de dire ceci. La vie n'appartient qu'à Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Mais il est évident que devant des détresses humaines, où, médicalement parlant, on se rend compte qu'il n'y a vraiment plus rien à faire et que la souffrance, malheureusement, est là, qui tenaille et qui fait mal, il y a peut-être une autre voie qui est intéressante à rechercher, c'est de ne pas donner la mort, pas d'euthanasie, mais d'accompagner vers la mort, ce que l'on appelle des soins palliatifs, où il y a là toute une technique médicale appropriée qui est capable, avec douceur, avec tact, avec modération, de ne pas précipiter la mort, mais de rester vigilant, d'éliminer toute souffrance inutile et d'accompagner jusqu'au moment fatidique où le Seigneur ferme les yeux. Nous ne pouvons pas accepter que par une piqûre X, Y ou Z, comme un animal, on en arrive à clôturer la vie de quelqu'un sur la terre, mais tournons-nous vers ce que la science moderne met à notre disposition, et il me semble que la voie des soins palliatifs peut être utile à bien des égards. Le chrétien face au virus H1N1 doit-il succomber au principe de précaution prêché par les gouvernants ou doit-il se confier davantage en Dieu ? Là aussi, je suis relativement mal placé pour en parler. Je crois qu'il faut faire appel là aussi à votre conscience personnelle. Est-ce que vous considérez que les gouvernants trahissent la vérité en pratiquant une sorte de marketing pour s'enrichir et en vendant aux azimuts ce fameux vaccin qui, ça n'est pas encore prouvé, peut-être ne résoudra rien à une éventuelle épidémie qui pourrait se propager dans les temps futurs? Ou est-ce que par précaution, mais je veux bien l'admettre également, par précaution, par conscience personnelle, vous vous dites, ce sont quand même des universitaires, ce sont quand même des gens qualifiés qui nous le proposent, et pour prendre telle ou telle précaution, j'accepte de me faire vacciner. Écoutez, là, je ne peux pas vous dire oui ou non. Je vous laisse à votre appréciation personnelle quant à la question. J'aurais aimé entendre dénoncer les consommations interdites et dangereuses. Beaucoup de jeunes considèrent qu'il est normal de faire des expériences. Non, cela est entièrement risqué. Bon, évidemment. Je pense que l'on fait allusion ici à une expérience en touchant à la drogue, par exemple. C'est vrai que les jeunes ont peut-être, de par la culture qu'ils ont reçue dans l'éducation scolaire, ce réflexe de tout essayer pour mieux comprendre. C'est un peu ce que l'on inculque à notre jeunesse. Il faut faire des expériences pour mieux en ressortir. Mais malheureusement, lorsque l'on voit les déchets que cela peut produire parmi la jeunesse, que dit la Bible? Quelle est la position du chrétien? Nous savons que des substances peuvent être interdites et sont dangereuses, en l'occurrence toute la panoplie des drogues que le chef de ce monde met à notre disposition. Et je crois qu'un enfant de Dieu, un jeune, quel que soit son âge, à cette exhortation, cette recommandation, cette prise de conscience, de se dire ce que l'apôtre Jacques vient nous souligner, résister au diable et il s'enfuira loin de vous. La tentation peut être très forte, je n'en disconviens pas, parce que Satan est malin et il s'arrangera toujours pour vous proposer dans les meilleures conditions qui soient telle ou telle expérience. Mais lorsque l'on a réellement la vie de Dieu en soi, lorsque l'on veut plaire au Seigneur, envers et contre tout, lorsque l'on a placé sa confiance en Dieu, eh bien, il vaut mieux fuir et résister afin d'annihiler l'influence du diable. Un exemple parmi d'autres, Joseph, jeune, aurait pu être drogué sexuellement parlant par Madame Potiphar. Il a préféré s'enfuir d'une manière humiliante, parce qu'il lui laisse son manteau, donc probablement qu'il a dû fuir tout nu. Ça n'était pas très glorieux de sa part. Il en a payé des conséquences fâcheuses, de longues années emprisonné. Mais il a préféré plaire au Seigneur, arrêter dans son cœur qu'il ne se souillerait pas, et nous connaissons la fin de son histoire, il en a été merveilleusement béni. Donc je crois qu'il faut mettre notre jeunesse, peut-être que d'ailleurs que moi le premier, dans nos réunions, nous n'insistons pas suffisamment sur cet aspect du grand danger de notre siècle moderne que sont ces substances dangereuses et ces consommations interdites. Trop souvent, les jeunes vont un peu trop loin et lorsqu'ils se rendent compte de leur bêtise, c'est à leur risque et péril. Grâce à Dieu, lorsqu'ils en reviennent, si ce n'est qu'une première expérience, sans conséquence, mais quelle détresse pour eux-mêmes et pour leurs parents et pour leurs proches, lorsqu'ils y ont pris goût et qu'ils ont un mal de chien de sortir de cet emprisonnement. Et enfin, une dernière mise au point sur... j'avais abordé une petite différence, mais enfin une... selon un jeu de mots, entre être saint, S-A-I-N-S, et être saint, S-A-I-N-T-S. Essayons d'être saint, oui, je veille à ce qui pourrait détériorer ma santé. Mais être saint, S-A-I-N-T, est une position intouchable car divine. Alors, essayer ne change rien dans l'amélioration, car il est écrit, soyez saint, S-A-I-N-T-S, car moi je suis saint, S-A-I-N-T. Veuillez expliquer la différence. Bon, il est évident que notre position de chrétien, lorsque nous avons accepté l'œuvre de la croix et que nous avons placé notre confiance en Dieu, nous sommes automatiquement lavés dans le sang de l'agneau, donc nous sommes sanctifiés. Nous sommes revêtus de la justice divine. Nous sommes déjà mis à part pour le sang et pour l'éternité. Quels que soient les péchés que nous allons encore commettre, parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, il y aura toujours cette possibilité, si nous confessons nos péchés, d'en obtenir le pardon. Mais la sainteté nous est acquise d'une manière ferme et définitive. Le salut ne se perd pas. Il est acquis par notre confession, par notre repentance, par notre acceptation de l'œuvre de la croix. Nous sommes déjà pour Dieu, pour l'éternité, grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais alors, par-delà la croix, commence alors le chemin de notre vie de foi, avec ses hauts et ses bas. Et c'est là que nous avons à essayer d'être le plus saint, S-A-I-N-S, possible, ne détériorant pas le corps que le Seigneur nous a prêté. Mais lorsque la maladie fait ses ravages, il est évident que nos efforts ne riment pas à grand-chose. Nous sommes en quelque sorte prisonniers de la maladie et du corps dans lequel cette maladie fait des ravages. Mais essayons de continuer au mieux pour réaliser que à chaque jour suffit sa peine, nous rapporte le Seigneur Jésus, et que avec les meilleurs efforts possibles, nous ayons à conserver notre corps saint, S-A-I-N, dans les meilleures proportions qui sont. Quant à la sainteté, elle nous est acquise d'une manière ferme et définitive. Merci beaucoup. J'ai essayé de répondre au mieux à vos interrogations.
Au nom de toute l'équipe d'organisation, je voudrais tous vous remercier parce que vous avez mis en pratique la gestion du temps au cours de la journée. Ça laisse augurer que pour la suite, ça sera bien pour vous. Je terminerai assez rapidement, je n'ai pas l'intention de faire une longue conclusion. J'ai été frappé que les orateurs sont tous revenus à ce principe biblique, mais qui était la devise des réformateurs. Sola Dei Gloria, rien que la gloire de Dieu, qui est revenu dans les trois conférences. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Vive Christ dans un monde qui change. Voilà toute une série de pistes de réflexion qui nous ont été proposées aujourd'hui. Et en effet, en Christ, nous sommes, je le rappelle, gérants de la création divine, invités à pratiquer un style de vie alternatif par rapport à celui que nous propose le monde. La parole nous rappelle la priorité de l'humain sur l'économique, de l'être sur l'avoir, de la relation avec Dieu et avec le prochain. Vivre ce que dit la parole de Dieu sur le pardon, l'honnêteté, la joie du partage, le contentement d'esprit, le respect de l'environnement, je pourrais continuer, la liste est longue. Vivre ce que dit la parole ne peut qu'interpeller nos contemporains, peut-être encore plus aujourd'hui, puisque beaucoup sont sensibles, rendus sensibles à ces valeurs par la crise économique et financière, entre autres, et sociale. La sortie de crise définitive sera réalisée par l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Je laisserai l'apôtre Paul conclure. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la servitude de la corruption qui l'a servie, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. À lui soit la gloire.